Alors, dans un instant, on va prendre vos appels au 790-9850, sinon par courriel drainville@985fm.ca. On va vous demander, est-ce qu'on en fait assez pour aider les femmes victimes de violences conjugales au Québec après toutes les années, mesdames et messieurs, toutes les années, les campagnes de publicité, les débats de société, le fait que les policiers n'étaient pas suffisamment bien formés, qu'il fallait qu'ils soient plus sensibles à cette réalité, les tribunaux devaient prendre ça davantage au sérieux. Puis là, on est bombardés de cas qui arrivent, qui surviennent jour après jour. Alors, je vais vous poser la question. Peut-être que vous avez des propositions de solutions, des choses qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas, je sais pas. En attendant, on va aller rejoindre Manon Monastès, qui est la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bonjour, Madame Monastès.
Bonjour.
Je suis un peu découragé. J'écoute là, c'est tous ces cas-là. Vous avez entendu l'entrevue avec Monique?
Oui. Une grande partie des problèmes, je pense qu'on a des problèmes à plusieurs niveaux, dont un qui est la réponse du système judiciaire quand on parle de soutenir, de protéger les victimes. Il faut dire qu'il y a 12, bon an mal an, il y a 12 homicides de conjointes ou d'ex-conjointes en contexte conjugal par année. C'est les statistiques du ministère de la Sécurité publique.
Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça augmente ou ça diminue?
Ben, depuis quelques années, c'est à peu près autour de 12, mais je pense que cette année, on va dépasser malheureusement ce chiffre-là. Il faut pas oublier non plus qu'il y a plus d'une trentaine aussi de tentatives de meurtre. Alors, c'est très questionnant. D'un autre côté, on sait que la confiance des victimes dans le système de justice aussi est très basse. Il y a seulement 20% environ des femmes qui vont porter plainte à la police pour de la violence conjugale. Alors, ça aussi, ça va avec la réponse du système de justice. Et il faut dire que aussi, on est dans un système de droit. Hein. Quand on voit au criminel, on peut porter des accusations sur des actes de violence, mais le contexte de violence conjugale, il n'est pas dans le décor, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut évaluer le contexte de violence conjugale. Un contexte de violence conjugale, c'est quand un conjoint veut exercer un contrôle total sur sa conjointe, c'est pas une chicane de famille. Et ça, au niveau de la formation des policiers, il reste quand même du travail à faire pour eux de réagir, d'évaluer la situation quand ils sont sur place. Mais là, il y a tout aussi la question d'une certaine uniformité de la réponse des services de police quand ils doivent intervenir en violence conjugale. Il y a des services de police où est-ce que vraiment, quand il y a un appel en violence conjugale qui rentre, c'est la top priorité. Ils ont même un système de classement qui est spécifique. Quand c'est un appel en violence conjugale, tout de suite, il va avoir plusieurs patrouilles qui vont être dégagées. Et ça, c'est pas uniforme là au niveau des services de police. On sait qu'il y a des outils aussi qui ont été créés pour les policiers pour évaluer la dangerosité de la situation. Alors, il y a plusieurs éléments et ça ramène la situation particulière de l'homicide qui vient d'être commis. Bon, nous, on veut vraiment mettre sur la place publique. On parle ici d'homicide et pas de drame conjugal. On parle vraiment ici d'un homicide d'une conjointe ou d'une ex-conjointe. Et ça ramène aussi tout le débat sur le registre des armes à feu. On sait qu'au Canada, le registre des armes à feu a été démantelé, que le Québec a fait des démarches pour récupérer aussi les données du défunt registre canadien. Et ça, on sait que c'est, en contexte de violence conjugale, c'est quelque chose de fondamental où les policiers ont besoin d'un registre des armes à feu pour assurer la sécurité des victimes, savoir quand ils sont appelés dans une situation de violence conjugale, vers à quoi ils vont avoir à faire face. Et on le voit très bien dans la situation, protéger les victimes, mais aussi protéger les policiers.
En terminant, là, parce que vous avez bien résumé, une femme qui fait affaire ou qui est aux prises, dis-je, avec un rôdeur ou un harceleur, un menaçant, là, et il n'y a pas eu d'acte encore de poser, là. Donc, je comprends que les policiers, à un moment donné, il faut qu'ils se fondent sur quelque chose, sur un acte qui a été posé pour pouvoir eux-mêmes entrer en action. Mais la femme, elle le sait qu'elle est en danger. Elle sent qu'il y a quelque chose qui pourrait lui arriver. C'est quoi les options qui s'offrent à elle?
Bien, les options, c'est d'appeler les maisons d'hébergement. Elles peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il y a toujours quelqu'un qui va répondre, Mme Monestès?
Il y a toujours quelqu'un qui va répondre, soit qu'elle appelle directement la maison d'hébergement via notre site Internet ou qu'elle appelle SOS Violence Conjugale, qui est le répondant au niveau provincial. Et tout de suite, elle va avoir au bout du fil une intervenante.
Il va-t-il avoir une place pour la prendre? Madame Monestès, est-ce qu'il va avoir une place pour la prendre? Si elle vous appelle puis elle est désespérée, mais vous lui dites toutes les lits sont pris pour la nuit, rappelle-nous demain, on n'est pas bien plus avancé, là.
Non, bien ça, on ne fait jamais ça. On souhaite que s'il n'y a pas de place dans la maison d'hébergement, on va trouver une autre maison d'hébergement. C'est peut-être pas dans la région, c'est peut-être dans une autre région, mais jamais. On va laisser, parce que d'abord, on évalue la situation de dangerosité. Mmh. Et s'il y a un danger imminent, tout de suite, les policiers vont être appelés, tout ça. Alors, on ne fait pas ça, mais effectivement, il y a aussi la question des places. Mais moi, je dis à toute femme qui se croit victime de violences conjugales ou qui craint pour sa sécurité d'entrer en contact avec les maisons d'hébergement, pour avoir le soutien et l'évaluation de la dangerosité et mettre en plan un plan de sécurité.
Manon Monestès, directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, merci.
Merci à vous.
Et on va aller aux appels au 790-9850. Est-ce que vous pensez qu'il faut en faire plus? Et si oui, peut-être comment pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales? Lisa nous appelle. Bonjour, Lisa.
Oui, bonjour.
Je vous écoute, là.
Alors, écoutez, il y a quelques années, moi, j'ai fait face à cette problématique. Puis c'est tout a commencé, finalement, lors de la naissance de mon fils. Et avec le temps, ça s'est dégradé. Par la suite, il y avait de la violence conjugale du couple depuis la naissance. Ensuite de ça, ça a passé aux menaces à l'effet qu'elle allait partir avec l'enfant sans me dire où est-ce qu'elle allait aller. Alors, moi, j'ai fait affaire avec Enfant Retour. J'ai contacté Enfant Retour et on m'a référé un avocate qui faisait affaire avec eux. Et le dossier a commencé là. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu les délais de cour qui ont fait en sorte que ce fut un long débat et beaucoup d'insécurité. Tout ça pour finir que ça me coûte 70 000 $ de frais d'avocat. Et le dossier s'est ramassé entre les mains de la DPJ parce que l'enfant a été évalué en psychologie. Mmh. Et ça s'est avéré à l'effet qu'il devait être vu en pédopsychiatrie suite à toutes les séquences de violence. Mmh. Et monsieur refusait à l'effet que l'enfant soit vu par qu'il y ait un suivi fait en pédopsychiatrie. Et donc, le dossier était remis dans les mains de la DPJ. Mais je peux vous dire que lorsque je me suis présentée à la Cour supérieure, la juge qui a entendu notre cause avait aucune expérience en droit de la famille. Alors, ça fait en sorte que je suis pas sûre que le jugement, finalement, était vraiment à la hauteur de la situation. Alors, c'était une... Par chance que j'ai eu ma famille autour de moi, mm-hmm. Des amis, et je trouve qu'une des solutions, c'est d'en parler. Sortir, parce que souvent ces gens-là ont un contrôle sur nous, oui. Et fait en sorte qu'on se... comme ils refusent, en fait, c'est que ils font en sorte qu'on s'isole et qu'on se coupe de la famille et des amis. Alors, moi, j'ai trouvé que ma solution à moi, c'était d'ouvrir, puis d'en parler, puis d'aller vers des solutions, contacter le CLSC, aller en thérapie, faire en sorte, parce que j'étais pas bien. Alors, c'est ça. C'était vraiment difficile et je sentais pas nécessairement qu'il y avait toutes les ressources autour de moi parce que je me suis sentie très démunie.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Lisa, il y a Élie qui nous appelle. Bonjour, Élie.
Bonjour. Tantôt, Mme Néron demandait s'il y avait, si elle avait, elle aimerait avoir des solutions. Ben, je crois qu'il y en a une qui pourrait être logique. C'est un débat qui a déjà eu lieu. C'est le fameux bracelet électronique. Quelqu'un qui était accusé, libéré, quoi que ce soit, là, sur les mêmes bracelets électroniques. Puis, si on fait le lien avec la dame qui son fils, ils ont une télécommande. Là. Mm-hmm. Mais maintenant que la technologie, là, ils peuvent être possiblement branchés ensemble. Parce que j'ai l'impression que le jeune, s'il voit son père, pas sûr qu'il va avoir le réflexe de peser sur le bouton. Mais si c'est relié ensemble, puis il y a une interdiction, mettons, de 200 mètres, 300 mètres, puis ça se met à sonner directement avec un GPS au poste de police, là, ils vont se déplacer, ils pourraient se déplacer directement et non pas donner le que ce soit le jeune qui pèse lui-même sur le bouton, la mère va le faire, mais le jeune peut être intimidé par son père, puis il le fera peut-être pas.
OK. C'est intéressant, Élie. Dans le fond, vous dites, les technologies étant ce qu'elles sont, on peut peut-être améliorer le système de protection. Chantal. Bonjour, Chantal.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Très bien.
Oui. Moi, je vous appelle. Je travaille dans le réseau de la santé et je trouvais important là, d'appeler pour donner mon point de vue à moi. Moi, je pense que les ressources en violence conjugale, effectivement, sont primordiales parce qu'il faut protéger les femmes. Mais j'aurais également un autre point à ajouter, c'est que les hommes n'ont pas beaucoup de ressources non plus. Un homme qui fait de la violence conjugale n'est pas nécessairement dépressif, n'a pas nécessairement un problème d'alcool, mais ça peut jouer dans la balance. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes. Et pour trouver une balance dans toute cette situation-là, il faudrait augmenter les ressources pour les hommes qui font des dépressions, des hommes qui ne vont pas bien, et aussi aller les chercher. Essayer de trouver des moyens qu'ils acceptent les services. Ouais. Parce qu'on aura beau mettre des moyens de contrôle, des bracelets, des moyens avec les policiers, donner des ressources aux femmes, si les hommes qui sont malades, qui ne vont pas bien, n'ont pas de moyens, on n'avancera pas. La roue va continuer de tourner. Il va continuer à avoir de la violence.
C'est un très bon point. Merci beaucoup d'avoir appelé, Chantal. Puis effectivement, il en manque des ressources pour traiter ces hommes-là qui ont besoin d'aide. Juste un dernier courriel avant d'aller à la pause. C'est Gabriel qui nous écrit. Il dit « Je crois qu'on n'en fera jamais assez en matière de violence conjugale. Ma seule expérience de la chose était en tant que voisin d'un couple. Je me suis fait réveiller en pleine nuit par la femme qui hurlait à deux reprises. » C'est arrivé à deux reprises en 6 mois. Les deux fois, j'ai appelé la police qui a embarqué le conjoint violent. La suite est moins reluisante. Après 2 courts séjours en prison, l'homme est sorti. C'est la même femme qui est allée le chercher pour retourner habiter dans le logement voisin. La 2e fois que j'avais appelé, j'avais croisé la femme en question qui était revenue prendre ses choses. J'y avais indiqué que j'espérais que ce serait la dernière fois que je la voyais. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Elle est revenue. J'ignore ce qui peut ou qui pourrait être fait de plus. Dans ce genre de situation, nous avons déménagé depuis. Ma conjointe était enceinte à ce moment-là. C'était un stress presque quotidien. On le comprend. On va aller à la pause et au retour, on va parler de cette histoire d'émeute puis de petits casseurs. Est-ce qu'ils doivent être collectivement responsables quand ils participent à une émeute puis détruisent le matériel public?